du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui au cinquième dimanche après Pâques. La liturgie d'aujourd'hui, c'est une liturgie où nous prions pour les enfants avortés dans le monde. C'est une messe qui est demandée à certains prêtres pour chaque jour du mois, pour demander au Seigneur le pardon des péchés. D'abord, le Seigneur s'occupe évidemment de ses enfants. Il est infiniment bon et c'est lui qui a la charge évidemment d'accueillir ses enfants qui sont des innocents, l'innocence même. Donc c'est Dieu qui en prend soin. Et puis surtout, obtenir la miséricorde pour ceux qui se repentent de ce très grave péché dans le monde. Ce sont des millions d'enfants qui sont sacrifiés. La folie humaine de l'humanisme triomphant aujourd'hui. Et donc c'est un très grave péché devant Dieu parce que c'est un véritable génocide qui se passe dans tous les pays, surtout occidentaux. Et donc nous devons prier pour que ceux qui se sont repentis, les mamans en particulier, ceux qui ont fait des avortements, celles qui sont reparties, repenties, puissent obtenir la miséricorde de Dieu par le sang de Jésus-Christ. Et aussi pour ceux qui pratiquent ces avortements, s'ils se repentent, que ce soit d'en haut à maintenant, dans l'espace-temps où nous vivons, et ceux qui sont de l'autre côté et qui se sont présentés devant Dieu avec ces graves péchés, ceux qui se sont repentis peuvent obtenir la miséricorde de Dieu par les prières de l'Église. C'est l'Église qui le relaie avec cette miséricorde, c'est par l'Église aujourd'hui. Donc c'est bon pour que certains prêtres prient pour cela. Même si ce n'est pas du tout la mode, et si on peut même être répréhensible de critiquer ce qui est admis universellement aujourd'hui dans le monde moderne. Nous devons donc prier pour cela. Merci. Aujourd'hui, nous avons un évangile très important parce que Jésus, avant de partir pour son ascension, annonce l'Esprit Saint. Il annonce l'arrivée de l'Esprit Saint. Et il dit que c'est lui qui le envoie, c'est par lui, c'est par Jésus. Il le dit lui-même que c'est par lui qu'il est envoyé. Et donc, si je ne pars pas, c'est-à-dire que je ne retourne pas vers Dieu, le paraclet ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, le Saint-Esprit est envoyé par la puissance et le triomphe que Jésus fait après sa crucifixion et sa résurrection. Le Seigneur est celui qui se présente devant Dieu le Père pour envoyer l'Esprit Saint. Donc c'est une chose très importante, cet Esprit Saint dont il dit qu'il confondra le monde. Et au sujet du péché, de la justice et du jugement, ceux qui ne croiront pas et ne suivront pas le Christ seront en état de péché grave. La justice, parce que il était normal que Jésus, après son incarnation et sa résurrection, retourne au ciel où il siège triomphal, évidemment sur son trône qui lui est acquis, évidemment par les mérites, d'abord sa position dans la Sainte Trinité, et puis les mérites qu'il s'est acquis et que le Seigneur, l'Écriture nous dit, Dieu l'a glorifié à cause de ce triomphe qu'il fait sur le mal dans l'humanité, où il rachète tous les péchés de ceux qui veulent bien, de se tourner vers lui et obtenir la miséricorde par son sang qui a coulé sur la croix. Et du jugement, car déjà le prince de ce monde est jugé, donc la victoire du Christ, c'est la victoire à laquelle nous sommes invités, la victoire qui promet l'éternité à tous ceux que Dieu a envoyés sur terre, chacun d'entre nous, avec sa mission, avec le temps où le Seigneur nous fait surgir, et la promesse de l'éternité, le prince de ce monde est jugé. C'est-à-dire ceux qui suivront le Christ ne tombent pas sur ses griffes par, évidemment, la grâce de Dieu qui était indispensable et aussi par le fait que chacun est le gardien de son âme. Comme nous disions ce matin avec des amis, chacun est le gardien de son âme. On peut suivre le Christ, on peut ne pas suivre le Christ, mais le prince de ce monde, celui qui dirige l'histoire que nous avons vécue depuis 2000 ans, en particulier depuis l'incarnation du Christ, le monde était déjà sous la férule. Le Seigneur nous dit bien, vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc, vous voyez, le temps que nous vivons sont des temps difficiles, où on nous annonce des catastrophes à venir. Le monde est déjà jugé par Dieu, donc c'est qu'une question que l'espace-temps se déroule, et la victoire du Christ, elle est la victoire d'une Église qui, pendant 20 siècles, à annoncer l'amour de Dieu, l'amour du prochain obligatoire pour aller vers Dieu. Et aujourd'hui, si nous avons dans l'épître de Jacques le chemin qui nous est donné, il nous est dit que nous devons suivre la parole de vérité, c'est-à-dire le Christ. Mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère, car la colère de l'homme n'opère pas la justice de Dieu. Donc, tout ce qui se passe dans le monde, il nous est conseillé de rejeter toute souillure, tout esprit de méchanceté, même à l'égard de ceux qui nous persécutent, parfois qui peuvent nous persécuter dans ce qu'on annonce comme devant venir une persécution, la dernière persécution sur le monde chrétien. Accueillez docilement la parole qui s'est implantée en vous, c'est-à-dire qui est dans notre cœur et qui vit véritablement la vie pour sauver vos âmes, parce que nous avons en nous les sacrements de l'Église qui nous ont été donnés depuis 20 siècles et le sacrement de la pénitence, c'est-à-dire la confession qui nous libère de nos péchés, et aussi le sacrement de l'Eucharistie qui fait implanter en nous le Christ comme étant chacun d'entre nous les tabernacles vivants du Christ. Quand nous recevons la présence de Jésus-Christ en nous. Et si nous restons, le caillon d'abord dans la grâce, c'est-à-dire la bonne volonté, je ne dis pas sans péché, tout le monde a des péchés, mais si nous sommes humblement réceptionnaires de la Sainte Eucharistie, le Christ vient parce que le Christ est venu pour les pécheurs. Et donc, si nous disons au Seigneur, voilà Seigneur, non sum dignus ut intres tectum meum, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit, le Seigneur va quand même faire le miracle pour le centurion quand il se présente devant lui et qu'il ne peut pas entrer dans une maison normalement d'un Romain sans se souiller. Le Seigneur à distance reconnaît l'humilité de cet homme qui a cette foi extraordinaire. Le Seigneur dit d'ailleurs, je n'ai pas trouvé en Israël une telle foi. Vous voyez, c'est un étranger, c'est un païen qui se présente devant le Seigneur et il guérit le serviteur. C'est comme ça que nous devons nous approcher du Seigneur avec humilité. Mais lorsque nous recevons l'Eucharistie, qui est le moment important de la vie chrétienne, nous devons rendre conscience que nous sommes le réceptacle du Christ et que dans notre âme, mais sur notre dans notre âme, parce que c'est dans l'essence même de notre âme que s'installe le Seigneur, occupe évidemment une âme qui l'accueille en y portant sa grâce, et aussi dans notre cœur, parce que c'est le cœur, c'est la partie qui nous concerne, où notre bonne volonté alimente notre âme. Donc, c'est très important. Il faut que nous soyons donc des transporteurs, nous soyons des tabernacles du Christ. Et le bon Saint Jacques nous dit que accueillons docilement la parole qui est implantée à nous. Cette parole, c'est la parole de l'Évangile, évidemment, de l'Écriture sainte, des pères de l'Église, de l'enseignement de l'Église depuis 2000 ans. Mais elle est implantée en nous. Comment ? Par la Sainte Eucharistie. Donc celui qui mange ma chair et bat mon sang aura le salut et la vie éternelle, c'est incontournable. Donc c'est un bénéfice qui est donné et dont nous vous remercions chaque jour d'avoir eu la connaissance du Christ, d'avoir aussi la force du destin de Dieu qui a fait que nous sommes entrés dans les cohortes du Christ et demander à l'Esprit Saint envoyé par le Christ pour alimenter notre intelligence, notre cœur et notre corps pour les mettre dans cette trinité que représente aussi l'homme, un corps, une âme et un cœur. C'est le miroir de la trinité céleste, donc vous voyez, c'est très important. Et il est dit que nous devons vivre de cet esprit de vérité qui nous mènera à la vérité tout entière, c'est-à-dire que c'est toute l'Église qui est alimentée depuis 20 siècles dans la recherche de la vérité, et que nous devons donc comprendre cette vérité tout entière qui est livrée dans l'histoire à travers l'Église que le Christ fonde. Je discutais hier avec quelqu'un sur le chiffre 153 qui dit dans Saint-Marc, vous savez, l'Évangile des poissons, au chapitre 21, où Saint-Marc dit « Ils jetèrent les filets, ils n'attrapèrent rien. » Et quand Jésus dit « Jeter les filets », il retire 153 gros poissons. 153, alors il y a eu plusieurs L'interprétation, c'est de poser la question. Saint Jérôme lui-même, dans le père de l'Église, dit « Ah oui, 153, c'est, on connaissait seulement à l'époque 153 poissons qui étaient connus de l'époque. Bon, » c'est la vision de Saint Jérôme. Après, on a la vision de Saint Augustin qui dit « Oui, c'est si on multiplie 1 plus 2 plus 3 pour 4 jusqu'à 17, on obtient le chiffre 153. » Et le 153, dit Saint Augustin, c'est le chiffre de l'Église tout entière, c'est le chiffre de l'Église parce que c'est un chiffre important. On peut trouver aussi que le 153, évidemment, c'est aussi la hauteur du Golgotha, d'où nous est venu le salut, 153 mètres de hauteur. Jusqu'au Concile, il y avait 153 congrégations romaines reconnues. Ça aussi jusqu'au Concile. Ensuite, ça s'est multiplié, on a changé un peu le nombre. Mais il y a aussi, on trouve aussi plusieurs choses, comme par exemple lorsqu'Abraham, Abraham et Sarai, dans l'Ancien Testament, sont choisis par Dieu, quand ils décident, Dieu se révèle à eux pour rassembler l'humanité. Donc ils sont le père et la mère, évidemment, de manière étonnante. Ils se font appeler Abraham et Sarai. Et en guématrie, en guématrie hébraïque, si vous faites le nombre de Abraham et Sarai, et Sarah avec un hé à la fin, vous avez 153. Oui, c'est très étonnant. Et le rosaire, 153, je vous salue Marie. Tiens, c'est curieux. 153, je vous salue Marie. Pour ça, vous restez avec 153 et priez le rosaire où la Sainte Vierge apparaît dans toutes les apparitions, toujours avec un chapelet. La Vierge qui apparaît sans chapelet, il faut se méfier, elle apparaît toujours avec le chapelet et elle recommande ce chapelet à cause des trois mystères qui sont mystères joyeux de le chemin que nous devons faire pour obtenir la grâce, l'humilité, l'amour du prochain, la confiance dans la providence, la purification du cœur, du corps et de l'esprit. C'est encore une image de la Sainte Trinité. Et le dernier mystère joyeux, c'est 3 jours à chercher le Christ. Notre passion qui doit être alimentée par le Saint-Esprit pour chercher le Christ tout le temps. Pendant les 3 jours, il cherche le Christ et il le trouve. Et nous aussi, nous devons rester fidèles, fidélité à la recherche du Christ, très important. Mystère douloureux, on a ce mystère du Seigneur qui assume la souffrance humaine et la traverse pour nous accompagner dans notre propre souffrance. Le magnifique mystère douloureux et les mystères glorieux, et évidemment, sont les mystères de la foi. Garder la foi authentique, la foi qui nous a été délivrée par le Christ, par les apôtres et par notre Église depuis 20 siècles. Le deuxième mystère, c'est l'attente du Christ qui revient. Jésus reviendra. Donc nous attendons depuis 2000 ans autour du Christ et nous savons qu'à un moment, il est indiqué dans l'Apocalypse et dans certains messages de Jésus-Christ lui-même que lorsque la foi, si le Fils de l'homme revient, trouvera-t-il encore la foi, ça veut dire l'apostasie générale avec quelques fidèles qui resteront comme au début de l'Église. Et puis, le troisième mystère, c'est la puissance de l'Esprit Saint. Nous devons demander qui sont les fruits de ces recherches de vertu, des mystères joyeux, traverser l'amour du Christ qui est donné, celui qui ne retire jamais son amour dans la souffrance, qui ne se retire jamais, donne le fruit de l'Esprit Saint. Si une seule des portes manque, on n'obtient pas les fruits de l'Esprit Saint. C'est un travail rigoureux qui est révélé dans les mystères du rosaire. C'est pour ça que ceux qui disent le rosaire sans les mystères, c'est un peu ennuyeux de ne pas le faire. Le quatrième mystère, l'adormition, enfin la Sainte Vierge, l'Assomption de la Sainte Vierge, ou l'adormition, comme le disent certains, la Sainte Vierge monte au ciel, toute pure, et donc elle monte au ciel avec son corps, parce qu'elle ne peut pas subir, évidemment, le karma que nous avons depuis Adam et Ève, le péché d'Adam et Ève. C'est aussi l'occasion de prier pour notre mort à nous, pour tous ceux qui dans le monde meurent chaque jour, et tous ceux qui sont dans la purification afin que les âmes, surtout pour lesquelles plus personne ne prie, nous puissions prier pour eux. Et la puissance de l'Église, elle se fait très sentir parce qu'il y a l'Église du ciel, là, il y a l'Église de la terre aussi et l'Église souffrante. énorme purification, l'église triomphante au ciel avec les saints, la magnifique théologie de la communion des saints qui sont très actifs et qui, au cours des 20 siècles, ont développé les miracles qui font qu'on a pu attester de la vérité de l'évangile parce que le Seigneur avait dit « vous ferez des miracles ». Et donc on voit tous ces saints dans l'histoire qui accomplissent encore en notre époque ces magnifiques miracles qui authentifient le message du Christ, la vérité du Christ et authentifient l'Église du Christ. Et puis le dernier mystère, c'est le mystère du couronnement de la Sainte Vierge. C'est cet immense merci que nous devons à la Mère de Dieu dans la communion des saints. Elle, la toute pure, passe son temps dans le ciel, comme elle dit aussi la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, je passerai mon temps à faire du ciel du bien sur la terre. Et imaginez évidemment que la Sainte Vierge est sans arrêt penchée sur le balcon du ciel, sur tous ceux qui se tournent vers elle. Et là, le dernier mystère, c'est le remerciement vraiment du monde chrétien, de ceux qui se tournent vers la Sainte Vierge, de celle dont il est dit dans l'Apocalypse, la Vierge qui surgira et qui sauvera quand même par sa prière et par sa beauté, rejoint par le bouquet qu'est la Sainte Vierge esthétiquement, le bouquet présenté avec Dieu de celle qui n'a pas péché. La Ève avait péché, la Sainte Vierge n'a pas péché, donc elle rachète en quelque sorte ce que je pense être une forme de corédemption. On a beaucoup jacassé là-dessus pour définir le terme de corédemptrice, enlever cette expression dans les qualités et dans les titres de Marie, c'est un peu redoutable. Marie est vraiment corédemptrice, elle est au pied de la croix, elle élève Jésus avec beaucoup de patience et d'amour, elle en fait un homme véritable qui est élevé dans la chair et s'élève évidemment dans l'esprit, qu'il est lui-même Dieu. Et la Sainte Vierge est aux premières loges, donc elle participe à tout, elle participe à la souffrance du Christ, elle participe aussi à sa résurrection, et elle reste avec les apôtres lorsque l'Esprit Saint descend dans le cénacle sur les apôtres. Et la Sainte Vierge, Maria Valtorta, que je cite une fois de plus, et bien que ça, Maria Valtorta dit que c'est une grosse flamme qui descend sur la tête de la Sainte Vierge, et ensuite se divise en 12 et va sur les 12 apôtres. Le miracle de la puissance de Marie, c'est par la femme qui est venue le malheur, et c'est par la femme que vient le bonheur, et la puissance de Dieu s'exprime dans celle qui donne la vie, et comme le Christ nous est-il dit, c'est par lui qu'il est associé à la création, nous dit la théologie, l'écriture sainte, et donc c'est la femme qui donne la vie quand même, qui accouche et qui fait surgir la vie d'une certaine manière. Et la corédemption de Marie fait qu'elle accouche de l'Église aussi avec le Christ dans l'histoire et qu'elle est incontournable dans le monde chrétien. Et donc le dernier mystère, le couronnement de la Vierge parmi les saints et les anges, oui, c'est vrai. C'est le couronnement de la Vierge aussi dans notre cœur, de tout ce qu'il a pris chaque jour, parce que sur le balcon du ciel, passe son temps à protéger et à veiller sur ceux qui se confient en elle avec tous les miracles. Les miracles toujours, je dis notre Église, c'est l'Église du miracle. On pense à Fatima, on pense à toutes ces apparitions, les 2000 apparitions de la Vierge en 2 siècles pour préparer le terrain de ce qui doit préparer le chemin du Christ, le retour du Christ. C'est magnifique. Prions aujourd'hui, Sainte Vierge, notre Reine et Mère du Ciel, de continuer à veiller sur chacun de nous du balcon du ciel où elle nous regarde en permanence, parce que, dit l'Écriture Sainte, dit la théologie, elle est la Mère de Dieu, elle est la Mère de Jésus-Christ, elle est la fille de Dieu, évidemment, parce qu'elle est une créature créée par Dieu, et elle est surtout aussi l'épouse de l'Esprit-Saint. Car celui qui n'a pas de péché est forcément dans l'Esprit-Saint de Dieu. Et donc, quand elle devient l'épouse de l'Esprit-Saint, elle reçoit de l'Esprit-Saint la puissance de l'Esprit de Dieu. L'Esprit-Saint ne garde pas sa puissance pour lui, il est l'expression. C'est le mystère, évidemment, pour parler de ces choses-là en détail. Saint Thomas d'Aquin lui-même s'est cassé les dents, essayer d'exprimer ce qu'est la Sainte Trinité, et Saint Augustin lui-même a écrit des Sancta Trinitate, et il dit « tout ça c'est un mystère, mais c'est le mystère de notre foi parce que nous l'avons reçu du Christ, Nous avons reçu les Saints-Pères et les apôtres, donc nous croyons ce que nous a été enseigné à cause des miracles qui accompagnaient tout le message chrétien envoyé. La Sainte Vierge, elle est l'épouse de l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint, comme elle est là toute pure, elle est une sorte de verre transparent qui reçoit la puissance de l'Esprit, son intelligence, son cœur, et sa force se repose dans ce qu'elle est aussi l'épouse de l'Esprit Saint. C'est magnifique de penser à tout ça. Voilà, merci. Il faut prier dans le temps qui vient et que nous puissions nous-mêmes bénéficier de toutes les grâces que Dieu déverse dans le cœur de ceux qui restent fidèles, qui se servent aussi du sacrement de l'Église, qu'il faut continuer de se nourrir de ces sacrements qui sont très importants, qui sont institués par le Seigneur lui-même, jusqu'à ce qu'ils reviennent, et nous mettre dans la communion des saints, nous comme des pauvres pécheurs, en demandant au Seigneur d'augmenter en nous l'œuvre de la grâce, parce que nous sommes disposés à la bienveillance pour le suivre, et que si nous sommes faibles par l'Esprit de Dieu et par les mérites des saints, et en particulier de la Sainte Vierge, si nous lui demandons, nous obtenons la grâce de rester fidèles au Christ et à son enseignement, et nous est promis ce qui tout s'effondre ici-bas sur terre, dans l'espace-temps, nous est promis en dehors de l'espace-temps, la béatitude éternelle, non pas un lieu de lupanar, comme on le voit dans certaines religions annoncées avec des vierges qui coulent partout et du vin qui coule à flot, qu'on vous interdit sur terre, mais que vous pouvez boire au ciel pour vous inviter au ciel, des sortes de c'est effrayant, le ciel, le paradis terrestre, nous ne savons pas ce que c'est, mais c'est une promesse qui nous est faite, que nous jouirons de la vision béatifique de Dieu, et que cette vision du bonheur de Dieu, de voir Dieu et de le côtoyer sans aucune scorie de ce qui traîne dans le monde aujourd'hui, où Dieu nous a donné la liberté de refuser les scories. Là, nous aurons le Seigneur sans scorie et dans une béatitude éternelle, dont le Seigneur a le secret, et le Seigneur a le secret des choses, et c'est pour le bien de chacun et pour le bonheur éternel. C'est le sens de notre bonne vieille et magnifique religion. Ainsi soit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.